Bienvenue à Scal 16-17 à Fulgence Blanc au micro. Oui, c'est Mathieu qui me donne ce petit sourire là, comme ça en onde. Alors, une belle journée ensoleillée, même s'il y a la petite fraîcheur qui est en dessous, ce mardi 4 octobre 2022. Oui, en première partie d'émission, j'ai deux chroniques, une chronique de série. Les séries à succès il y a 20 ans qui reviennent. C'est Myriam Larache qui va nous faire le résumé de ça. Et ensuite, à 16h15, Céline Laberge va nous parler de culture, c'est la chroniqueuse culturelle. Il y a de théâtre, de nouveautés littéraires, et puis de quoi encore, de services offerts par la Bibliothèque de Montréal. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la Bibliothèque de Montréal peut offrir, restez à l'écoute à partir de 16h15. Et tout de suite, non, pas tout de suite, parce qu'à 16h30, j'ai une invitée, Katia MacDissy Warren, qui est compositrice, directrice artistique d'Octo-Echo. Oui, pourquoi je l'invite? C'est pour nous parler du prix Betty Webster 2022 qu'elle vient de recevoir. Ah ouais, c'est comme ça. Beau travail. Voilà, avec l'album, un album de 11 pièces, si je me trompe, elle va me corriger. Alors, tout de suite, je vais dire bonjour à Myriam et lui laisser le micro pour qu'elle puisse nous faire découvrir les séries à succès qui, il y a 20 ans, qui reviennent, qui sont d'actualité. Bonjour Myriam.
Bon après-midi, Fulgence, ça va bien?
Oui, ça va bien, merci.
Bon après-midi à tous nos auditeurs. Oui, je vais parler de cette tendance qui revient, mais j'en ai choisi deux et une petite troisième pour en parler.
Oui.
Pour prendre le temps, bien sûr. Oui, cette tendance depuis quelques années, je ne sais pas si tu l'as remarqué, une tendance de fond qui s'est accentuée encore plus maintenant avec ce retour des séries à succès des années 80-90, comme on a revu revenir MacGyver. Je regardais ça quand j'avais 14 ans. Hein.
Oui.
X-Files, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, cette série fantastique et étrange qui a eu un succès planétaire. Will and Grace, etc. Alors, est-ce une nostalgie de l'époque, Fulgence, qui tombe dans notre temps à nous? C'est spécial quand même. Hein.
Oui, si on peut appeler ça vintage, on l'appelle comme on veut.
Oui, comme on veut. Cette nostalgie de l'époque, les gens sont nostalgiques des années 80-90 de ces séries à succès. Oui. Alors, on va choisir une proche de nous, la nôtre au Québec, une qui a eu un succès planétaire, il faut le dire. Un gars, une fille. Alors, ça a été annoncé, hein, le couple d'un gars, une fille. As-tu vu cette série, toi, Fulgence?
J'étais même pas là, j'étais pas encore au Québec.
T'étais pas en l'an 2000 au Québec?
Non.
Ok. Hein.
Je suis arrivé en 2004.
Ok.
J'étais en 2003 ici comme vacancier, 4 semaines de vacances en septembre.
Ah, ben, t'as fini en 2003, c'est pour ça que tu as loupé ça.
Voilà. J'ai pas connu cette époque.
J'étais là,
oui.
Et j'étais une fan finie, il faut le dire. Alors, le couple d'un gars, une fille formée de Guya Lepage et Sylvie Léonard, tu les connais, ces deux-là.
Oui, j'ai vu des photos passer là-haut.
Ouais. Ouais, et c'est les chouchous du petit écran, il faut le dire, dans les années 2000. Eh bien, le couple revient sur les ondes de Radio-Canada dans une mini-série de 4 épisodes pour l'instant,
ah bon,
à compter du printemps, oui, 2023. Okay. Alors, ce retour aurait pour but de célébrer surtout les 25 ans de la création de cette émission qui a gagné, rappelons-le, 24 prix Gémeaux, Fulgence. De plus, le concept a été vendu et adapté dans une trentaine de pays. Je ne sais pas si moi j'ai déjà vu la version française, québécoise.
Non, je n'ai pas vu la version allemande non plus.
Allemande, grecque, espagnole, italienne, écoute, libanaise, écoute, il y en a à tous les goûts, à tous les pays qui s'adaptent aux cultures, c'est formidable, c'est incroyable. Alors, en conférence de presse, les deux comédiens n'ont pas caché leur excitation et leur enthousiasme pour le retour de leurs personnages qui ont amusé le public, faut le dire, avec leur tendre chamaillerie et haute crépage de chignon. Ça a duré donc de 1997 à 2003. Alors, Guy Lepage, qui est flanqué de sa muse, on va dire, hein, Sylvie Léonard, a dit « C'est un cadeau qu'on se fait, mais qu'on se fait aussi au public ». Alors, pour rappeler à ceux qui ont oublié ou peut-être loupé le dernier quart de siècle de télévision comme toi, Fulgence, un gars, une fille, qui portent leur propre prénom, parce que ils s'appellent Guy et elle s'appelle Sylvie dans la série.
Ah, ils n'ont pas eu de sobriquet là-bas?
Non, ils ont gardé leur vrai, comme c'est pour ça que les gens, ils y croyaient à fond, tu comprends là?
Ah, bon, d'accord.
Il était Guy et elle était Sylvie, alors dans la série.
Oui.
Il faut le préciser, donc qui se présentait sous forme de capsules humoristiques qui donnaient donc des moments de la vie d'un couple bien ordinaire aux prises avec des réalités du quotidien. Alors les gens s'identifiaient beaucoup, hein, et ils voyaient ce couple traverser les méandres de la vie.
Oui.
Alors c'est sûr que l'on va voir 25 ans plus tard comment Guy et Sylvie ont changé dans leur comportement, parce que c'était un couple très dynamique, elle s'énerve très vite, à l'italienne presque. Et lui, donc, toujours avec un flegme pas possible. Alors qu'avec le départ, donc, de leurs deux enfants, là où s'était arrêtée la série en 2003, la maison de banlieue est devenue trop grande. D'où l'idée, prise sur un coup de tête, de revenir vivre à Montréal, le couple, un endroit qui lui aussi n'est plus tout à fait le même. Alors c'est là qu'on va prendre la série, qu'on va la reprendre à ce moment de leur vie. On est donc dans l'acceptation, dit la fille en humour en entrevue. Donc, était poigné avec le gars, dit-il. Alors même en conférence de presse, il joue presque une capsule. Il dit qu'il y a le page, c'est un couple qui s'aime, ils ont juste perdu l'habitude d'être à deux. Alors, c'est un peu sérieux ce côté-là. Alors, comme si c'était hier, les deux acteurs expliquent qu'ils se sont souvent fait demander sur la rue pourquoi Guy Fu n'est pas revenu à la télé, c'est quand la suite, ils étaient harcelés tout le temps. Et bien maintenant, ils sont prêts. Une fois que l'idée a été acceptée, l'écriture des 4 épisodes s'est bouclée, Fulgence, en 3 semaines.
Oui.
Le tournage de toutes les scènes extérieures sont déjà terminés. Apparemment, il reste le tournage des scènes intérieures. Alors, sur le plateau, la complicité apparemment est toujours là. Et Sylvie Léonard de préciser, c'est comme si on n'avait jamais arrêté de tourner ensemble.
Ouais.
J'avoue qu'il y a une alchimie entre les deux. Hein. Quand on les voit l'un à côté de l'autre, là, c'est spécial.
Et surtout qu'ils sont restés dans les milieux de communication et culturel, tout ça, des arts. Ils ne se sont pas éloignés du milieu du tout. Hein.
Non, ils se sont souvent vus. Puis, quand il y a une alchimie entre deux individus, que le temps s'arrête ou pas, c'est comme quand on reprend le téléphone avec un ami à qui on n'a pas parlé pendant 3-4 ans.
Oui.
Puis des fois, ça s'enclenche comme si ça s'était jamais arrêté. Hein, comme
c'est ça les amitiés, les vraies amitiés.
Exact. Alors voilà, donc la nouvelle mouture donc, d'un gars et une fille sera déposée en primeur tout d'abord sur l'extra d'ici tout.tv au printemps 2023, avant d'être diffusée sûrement à la rentrée à ici télé. Alors, on a hâte de voir ça. Mm-hmm. Moi, en tout cas, je serai devant le petit écran pour voir ça.
Tu connais le début. Voilà, tu
Eh oui, j'étais une fan.
Surtout que tu connais le début. Non, je vais découvrir ça. Je vais me donner...
Oui.
Je vais voir de quoi ça a l'air.
Mais tu vas rire, hein, c'est vraiment rigolo, là. C'est vraiment... C'est amusant. C'est ça qui était bien, c'est cette légèreté de rire sur parfois des sujets même sérieux. Hein. C'était intéressant.
Avec toutes les mauvaises images qu'on voit à la télé, là, mais vous en riez quelquefois, de rire de certaines choses qui nous font rire, quoi, voilà.
Mais c'est drôle que tu dis ça, parce que c'est exactement ça. Pourquoi ce retour aux années, ces succès des années 80, des années 90, c'est des séries qui étaient très légères, hein. On riait beaucoup, surtout au niveau aussi des États-Unis, hein, des sitcoms qui font rire, c'était ça les années 80-90, hein. Alors, c'est la suite. J'ai choisi cette série culte, évidemment, qui a beaucoup fait parler d'elle et parce qu'elle est renouvelée pour une deuxième saison, la suite de Sex and the City. Alors, tu as sûrement entendu parler de ça. C'est un retour qui a été attendu, anticipé, scruté à la loupe sous ses moindres coutures. Et la nouvelle série, donc dérivée de Sex and the City, elle ne porte pas le même nom, mais elle porte And Just Like That.
Ah bon, donc, ils ont changé de nom. Bon, je me rappelle bien. Sex and the City. Bon, là, j'ai vu ça.
Ah oui. La planète a parlé de ça parce que c'est une série quand même dont on a beaucoup dit. Oh, c'est une série glamour, tatati, tatata. Mais pareil, c'était quand même des femmes qui ont mis en première scène la liberté sexuelle des femmes. Hein.
Moi, elles m'ont fait rire. Elles m'ont beaucoup fait rire.
Première quand même sur la télévision. Donc, ça met en vedette le retour de 4 copines, moins une, il faut le préciser.
Il y avait une sorte d'autodérision, quelque part.
D'autodérision, de cynisme, oui. De la place de la femme, comment elle, quand elle veut un homme ou qu'il lui plaît, comment ça se passe.
Voilà.
C'est ça. Alors, ceci, donc, plus de 20 ans plus tard, donc, 2 films qui ont été quand même un échec, 2 films ont été dérivés de cette série qui n'ont pas vraiment marché. Alors, cette fois-ci, on raconte les hauts et les bas de la vie des légendaires copines qui n'ont plus 30 ans, mais 50 ans bien sonnés cette fois-ci. Ah oui, le temps passe pour tout le monde.
50 printemps bien comptés.
Exact. Alors, ce sera aux côtés donc, de Sarah Jessica Parker, que tout le monde connaît, Christine Davis et Cynthia Nixon. On voit apparaître d'autres acteurs qui avaient des passages un peu secondaires qui réapparaissent. Et la confirmation de la 4e mousquetaire qui était la charmante Samantha, inhibée à elle, Samantha, notre célèbre actrice canadienne d'ailleurs, Kim Cattrall, qui elle a refusé de revenir. Elle ne sent, selon les blabla et les échos hollywoodiens, elle est fâchée avec Sarah Jessica Parker et avec surtout la production. Donc, Durant la dernière année, même si le tournage quelque part s'est déroulé dans le plus grand secret, on a tout caché, on n'a rien voulu montrer. C'est d'habitude des Américains, ils montrent des teasers, des...
Ils ont voulu nous surprendre, quoi.
Alors pour les femmes, il faut dire que ce retour a un effet réconfortant, car ça s'est fait, donc ça s'est lancé en 21, hein, et pendant la pandémie. Alors c'est sûr que tout le monde voulait rire un petit peu et se lâcher Selon d'ailleurs une professeure de littérature chez nous au Cégep Maisonneuve, elle a dit, Sandrine Galland, à propos de cette série qui revient, ce sont nos pantoufles au fait qu'on remet, confirme la féministe. Elles nous ont accompagnées, ces femmes, on les reconnaît sous toutes leurs coutures. Il y a comme un sentiment de télébonbon dont on a grand besoin après cette pandémie, ces dures années qui viennent de passer. Alors, c'est une touche quand même féministe qu'il faut reconnaître à cette série. Il faut rappeler que, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a toujours eu quelque chose de profond par rapport à la liberté des femmes. Alors, elle a été l'une des premières séries à mettre en scène donc des femmes libres, libérées, qui osent raconter leur sexualité dans les détails de manière décomplexée. Alors, And Just Like That, qui maintenant c'est ça la série, non seulement, donc, on va voir des femmes de 50 ans, Fulgence.
Oui, j'espère qu'elles ont gardé le charme et puis leur, voilà, leur...
Bien sûr, ben, voilà. Elles sont toutes belles, en fait, en passant.
Oui,
hein.
Oui.
Mais quand même, c'est des femmes de 50 ans qu'on ne voit plus sous cet aspect à nos écrans. Maintenant, les femmes de 50 ans ont des rôles secondaires, c'est des mamans, c'est des... C'est
sauf qu'on voit. Oui, quelques rares qui ont la chance d'avoir des rôles. Voilà, quelques rares comédiennes qui ont la chance de...
Et tous les personnages principaux, donc on sait qu'on entend et plus un peu, avec donc des déboires amoureux et sexuels, il y a du culot là, il faut le dire, et ce n'est pas si courant. Donc après 20 ans d'absence, le deuil, la séparation, la crise, tous ces termes seront abordés dans cette suite. Et HBO en plus...
Ça va faire grincer des dents.
Ah oui, c'est sûr, c'est sûr.
Ça va faire grincer les dents.
pour les faux pudiques, Fulgence.
Ah, surtout en 2022, là, ça va faire grincer les dents.
Exact. Alors, HBO a déjà annoncé donc une deuxième saison. Et voilà, donc les gens sont en attente de tout ça. Tous les épisodes sont disponibles sur Crave et HBO.
Oui.
Donc, vous pouvez aller voir. Maintenant, je finis.
Oui, avec ?
Avec Friends. Est-ce que tu as vu Friends, par contre, toi ?
C'est en quelle année, ça ?
Ça non plus, tu l'as pas vu ?
C'est en quelle année, ça ?
Ça, c'est de 1994 à 2004. C'était en Europe, c'était partout en Europe, partout dans le monde. Écoute, même en Afrique, hein, les Ghanéens connaissent Friends, juste pour te donner une idée.
Oui, attends. Donc, quand tu vas parler des personnages, viens me rappeler.
Peut-être. Alors, 27 ans après le début de Friends, il y a eu Friends, la réunion, qui retrouve 6 membres du casting de la série culte, une émission spéciale. Alors, cette fois, celle-là, c'est sur un autre format. C'est pas une saison, c'est pas des nouveaux épisodes. Et surtout... Les 6 acteurs, je vais te les nommer, tu vas peut-être en revenir, c'est Rachel avec Jennifer Aniston, Monica, Courtney Cox, Phoebe, Lisa Kudrow, Ross Schwimmer, interprété, et Joey, Matt LeBlanc, et Chandler, Matthew Perry. Donc leur personnage de la série Mythic Friends a été diffusé de 1994 à 2004, pendant une dizaine d'années.
Mm-hmm.
Et ce retour, donc cette réunion, car
c'est
un seul épisode, a provoqué une vague d'enthousiasme qui a déferlé sur les réseaux sociaux. Écoute, le format n'est pas classique, c'est une interview au fait entre les acteurs, c'est presque un documentaire au fait, très divertissant. Oui, qui est très divertissant.
Mais pourquoi ce changement de virage ?
Ils ont présenté comme ça parce que les acteurs ne voulaient pas faire autre chose. Ils ne voulaient pas faire de suite au fait.
Ah bon, d'accord.
Ils ont refusé.
Okay.
Donc ils ont dit, écoutez, on va faire cette réunion tant attendue par tout le monde, et on va le faire sous ce format-là, qui est présenté par donc c'est l'intervieweur britannique James Corden qui a causé une entrevue entrecoupée donc d'entrevues avec des fans, avec des on assiste entre autres à des témoignages de célébrités comme David Beckham, tiens, donc le groupe coréen BTS, sud-coréen BTS, qui
le
est connu.
Le fameux groupe sud-coréen, oui.
Sud-coréen. Mmh. On donne la parole aussi à des téléspectateurs du monde entier, des Ghanéens, des Allemands, des Français. Alors, ces derniers racontent comment Friends leur a permis de s'affirmer dans leur vie, comment ça a pu. C'est donc 6 acteurs, je vais te le dire, 6 acteurs qui vivaient dans 2 appartements à New York.
Ils vivent tous encore, là ?
Ils sont tous, oui, vivants, les acteurs, les 6.
Oui. Ah, moi, d'accord.
Tous vivants.
Tu sais, il y a beaucoup d'eau qui ont coulé sous les ponts. Hein, on ne sait jamais.
Ben, je vais te rappeler l'actrice Jennifer Aniston. Tu la connais un peu.
Oui.
Si tu la vois, elle, tu vas retrouver la série dans ta tête parce qu'elle, elle s'est beaucoup démarquée par rapport un peu aux autres.
Elle
a fait beaucoup de cinéma. Elle était l'ex-petite amie de Brad Pitt. Elle a fait beaucoup de choses. Hein. Elle a été plus connue un peu que les autres.
Oh, le milieu hollywoodien.
Elle s'est démarquée.
Le milieu hollywoodien, voilà.
Exact. Alors, L'actrice Courteney Cox qui joue là-dedans a précisé la petite brunette parce qu'il y avait trois filles et trois garçons autour de cela, deux appartements l'un en face de l'autre, des jeunes qui s'aiment, qui sont amis, qui se font des petits coups. Alors c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Moi, je n'ai pas accroché cette série, je vous le dis juste en passant, je ne sais pas, c'est pas venu me chercher. Alors, mais je sais que beaucoup de mes amis autour suivaient ça, vraiment beaucoup. Alors, elle a précisé, c'est la dernière fois que l'on va nous voir ensemble, tous ensemble de Friends. On ne fera plus jamais ça, ne nous attendez pas dans 15 ans. Alors elle prépare déjà le terrain, elle dit, comme ça que ça va se présenter.
Si elle devienne centenaire, il se pourrait qu'elle revienne à 90 ans, on ne sait jamais.
elle dit non déjà. Alors, en passant, juste pour vous le dire, les six acteurs ont négocié, Fulgence a caché quand même, chacun, de 2,5 millions de dollars juste pour une seule émission. Imagine. Alors, ils se sont renfloués les poches un petit peu, n'est-ce pas? Et puis voilà, donc à visionner sur super écran en français, sur Crave et HBO en VO et en sous-titrage.
Oui.
Vous pouvez également retrouver sur Netflix les 10 saisons et sur Crave et même au fait sur la télé publique. Il y a beaucoup de chaînes américaines qui repassent ces séries, hein, qui les repassent gratuitement. Donc vous pouvez aller chercher si vous êtes nostalgique de revoir les saisons de Friends.
Merci beaucoup, Myriam.
Alors, je ne sais pas que Jean Santos t'a dit jusqu'où elle va aller. Peut-être qu'on va revoir la petite maison dans la prairie qui va revenir. Vraiment, ça, c'est une série de mon enfance. Hein.
Oui.
C'est les années 70, ça. Ça a parcouru l'Afrique en tout sens. On avait la petite maison dans la prairie avec Laura Ingalls. Ils vont peut-être nous ramener ça, Fulgence.
On ne sait jamais. Mais c'est cette tendance là-bas. Je sais que tu vas revenir sur ça avec d'autres vieilles séries qui vont revenir encore. Ça, c'est clair. Comme tu le dis, c'est devenu une tendance maintenant. Merci beaucoup à toi. Et puis,
je vous dis à jeudi.
À jeudi, voilà.
Allez, à bientôt.
Merci beaucoup, Myriam. Bye bye. Voilà, merci beaucoup Myriam pour le retour de ces séries à succès il y a 20 ans. Là maintenant, c'est Céline Laberge qui va nous parler de théâtre, de nouveautés littéraires et puis des services offerts par la Bibliothèque de Montréal. Bonjour Céline.
Bonjour Fulgence.
Oui, on va aller tout de suite pour que tu puisses nous dire le maximum de choses pour ne pas qu'on soit à court de temps. Voilà.
Alors encore, j'ai tellement de belles choses à parler. Écoute, je suis allée voir un événement théâtral, j'appelle ça vraiment un événement,
oui.
Parce que c'est un spectacle complètement éclaté. Donc, je suis allée voir La Nuit des Rois au TNM, au Théâtre du Nouveau Monde.
Ah oui.
Je voudrais d'abord souligner que c'est une adaptation, vraiment un tour de force qu'a fait Rebecca Desraspes et Frédéric Bélanger.
Ah oui.
Pour adapter donc la tragicomédie de Shakespeare.
Wow.
Oui, on part de loin. Et la mise en scène de Frédéric Bélanger est complètement éclatée. Je vous explique. Le spectacle commence, donc on est au TNM, avec un band de musiciens, donc un groupe de musiciens rock seul sur scène. Alors là, j'ai eu un petit doute, je me suis dit, est-ce que je suis vraiment au bon spectacle? Est-ce qu'on est dans l'univers de Shakespeare?
Allez, vas-y, on t'écoute.
Alors, la pièce a été écrite au 16e siècle. Alors, ma surprise ne faisait que commencer. Il faut rappeler qu'à l'époque de Shakespeare, quand il a écrit La Nuit des Rois, les femmes n'avaient pas le droit de monter sur scène. Dans la version moderne, trois femmes de fort caractère sont au centre de l'action et on retrouve de nombreux propos féministes très savoureux. Donc, les femmes n'avaient pas le droit de monter sur scène, c'était des hommes déguisés en femmes qui devaient jouer les rôles.
Wow.
Heureusement, on est à une autre époque.
OK.
Du début à la fin. On va passer 2 heures sans entracte avec un spectacle de musique, de chansons, un rythme fou d'action, des personnages contractés, un langage gestuel vraiment très drôle. Et en contraste, On a de magnifiques scènes tout en lenteur, diffusées sur un grand écran qui fait la largeur de la scène. C'est vraiment impressionnant et c'est vraiment en contraste avec ce qu'on a comme jeu devant scène.
Ça passe encore?
Oui, c'est là jusqu'au 15 octobre.
Ouais.
Il y a même des supplémentaires, j'y arrive. Ce que je veux dire, c'est que toute cette folie qu'on voit sur scène, en réalité, ça appuie la profondeur des dialogues derrière cette apparence de légèreté. Donc, on aura plusieurs niveaux là, de lecture. Et je dois souligner les comédiens, tout à fait remarquables. Ils sont 12 et je voudrais souligner la performance de Benoît Méguenis, Yves Jacques, Kathleen Fortin et Alex Desmarais. Si vous avez envie de vous faire plaisir, c'est un must au TNM jusqu'au 15 octobre. Et on vient d'ajouter deux supplémentaires le 22 et 23 octobre. Et pour les petits budgets, eh bien, sachez qu'à partir de midi chaque jour, les billets sont réduits jusqu'à 50 % donc le jour des spectacles.
Ah, moitié prix.
Moitié prix. Et d'accord. C'est vraiment, on se fait plaisir en allant voir ce spectacle-là.
C'est bien de le mentionner, merci.
Mm-hmm. Ben oui. Mm-hmm. Maintenant, TNM, on est dans le quartier du spectacle. Maintenant, on va aller carrément dans l'est de la ville, le Théâtre Prospero.
Oui.
Mademoiselle Agnès est à l'affiche jusqu'au 15 octobre. J'en avais parlé brièvement la semaine passée. Alors, je vais le voir ce soir. Je pourrai vous en parler plus en détail la semaine prochaine.
Ouais.
Par contre, aujourd'hui, je voulais parler d'une pièce qui commence dans la petite salle du Théâtre Prospero, qui s'intitule « Le gardien des enfants ». C'est une œuvre intime, bouleversante.
Oui, il y a Mathieu à la régie qui va ce soir.
Ah bon?
Il vient de me signaler ça à l'oreille.
Alors, on va pouvoir se croiser au Théâtre Prospero. Il va être curieux de savoir ce qu'il en pense.
Oh. Il va commenter prochainement avec toi.
Ça va me faire plaisir parce que là, on n'est pas dans la légèreté. On parle quand même des traumatismes laissés par la violence auprès des enfants. C'est un texte de Charles Voyer. C'est jusqu'au 22 octobre,
oui.
Donc c'est au Théâtre Prospero, 1371 Ontario Est. Quelque chose à découvrir.
Mmh.
Et je veux juste dire que la petite salle du Prospero, elle n'est pas accessible pour les fauteuils roulants. C'est une salle trop petite et qui n'est pas bien située.
Mmh.
On reste dans le théâtre?
Oui.
Alors, cette fois, je voudrais parler de la Maison Théâtre, qui est sur la rue Ontario, mais celle-ci plus près de Saint-Denis.
Mmh.
La Maison Théâtre, comme tu le sais sans doute, est dédiée au jeune public.
Oui.
Jusqu'au 16 octobre, la pièce Le Potager, qui est créée par la compagnie de théâtre de Sherbrooke, s'adresse aux tout-petits de 3 à 9 ans. Alors, il faut essayer d'imaginer le public là, de 3 à 9 ans. C'est un spectacle musical, mais attention, on ne parle pas de berceuse ici. On est plutôt dans l'énergie de la musique rock.
Oui.
Et ça marche, et tout le monde danse.
Je veux bien voir la réaction des 3 ans, des 4 ans, des 5 ans. Le 9 ans, ça va encore, mais les 3, 4, 5 ans, là, je ne sais pas comment. Allez, je te laisse partir. Il nous reste encore 4 minutes, Céline.
Alors, au potager, dit-on, c'est comme dans une salle de spectacle.
Okay.
On cultive sa résistance mm-hmm. en créant un espace pour laisser émerger un peu de beauté.
Oui.
Et tout ça à partir de 3 ans. Il y a déjà des représentations complètes en semaine pour les écoles, les fins de semaine, samedi, dimanche, 9h30, 11h et 15h pour les familles.
Alors, pour les familles, bien sûr, les familles qui aiment sortir, il y a des familles voilà, qui n'ont pas encore, qui n'ont rien prévu. Allez, je pense bien que c'est tombé dans vos oreilles. Voilà.
Ouais.
Ouais. Alors, on continue, oui, avec les nouveautés littéraires.
En littérature, vous savez, tu sais, faisant qu'il y a des livres parfois qui nous marquent plus que d'autres.
Oui.
Alors, j'ai lu la décision de l'auteure française Karine Thuile,
mm-hmm.
c'est aux éditions Gallimard. C'est le 12e roman de Karine Thuile, un roman absolument captivant. Elle est d'ailleurs reconnue pour son analyse des contradictions des individus et de la société.
Oui.
Alors, ce 12e roman se lit comme un thriller judiciaire.
Wow.
On est accroché du début à la fin. Et attention, le sujet, c'est qu'elle nous amène dans le monde des juges d'instruction antiterroristes. On n'a pas la chance souvent de lire là-dessus.
Mmh.
Alors, l'histoire se déroule en France en 2016. La juge Alma Ravel doit se prononcer sur le sort d'un jeune homme de retour en France après avoir rejoint l'État islamique durant son séjour en Syrie. Le roman est ponctué de nombreuses scènes d'interrogatoire avec l'inculpé. L'épineuse question est de savoir si le suspect est récupérable en dépit de son passé ou s'il constitue toujours une menace pour la société.
Ouais.
A-t-on envie de lui donner une chance? Et le danger est-il plus grand de le garder en prison ou il pourrait renouer avec la haine?
La question reste sans réponse pour l'instant.
Oui, question assez troublante.
Ah oui.
En écrivant habilement son roman au jeu, l'auteur nous fait entrer dans la tête du juge. Alors, on partage ses angoisses, ses doutes sur le choix crucial qu'elle devra faire. Les incertitudes de la juge deviennent du même coup les nôtres. Nous sommes confrontés à nos propres préjugés, à nos doutes et nos angoisses face au terrorisme. Karine Thuil a dit qu'elle avait besoin de comprendre suite aux événements qui se sont passés le 11 septembre aux États-Unis, à Charlie Hebdo et tout ça.
Oui.
Elle voulait comprendre comme bien des gens qui sont marqués par ces attentats, qu'est-ce que ça veut dire toutes ces pulsions de mort qui obsèdent les gens. Ils s'interrogent sur le dysfonctionnement de notre société.
Céline?
Oui.
Il nous reste une minute. Plus.
Alors, sans dévoiler l'issue du roman, c'est un suspense insoutenable jusqu'à la fin.
Merci.
Alors, on va aller plus vite. Alors, toujours côté littérature, une de moins, roman de Christine Brouillette, c'est son 50e livre, le 20e de la série de ses romans policiers avec l'enquêteur Maude Graham. C'est un phénomène important et elle va parler du trouble, le troublant phénomène des féminicides. Mmh. Ça sort demain. Et puis, Dany Laferrière nous a laissé cet été son 5e roman dessiné, Dans la splendeur de la nuit,
oui,
qui parle des nuits de sa petite enfance à Port-au-Prince.
Oui.
Est-ce qu'on a le temps de parler un peu des bibliothèques?
Oui, rapidement. Mmh.
Alors, les bibliothèques de Montréal, il y en a 45 à Montréal dans 19 arrondissements. C'est un service gratuit. Il faut en abuser.
Okay.
Parce qu'à cet endroit-là, on trouve plus d'un million de documents, des livres, des films, des jeux. On peut même emprunter des instruments de musique. Il y a des milliers d'informations là, sur les journaux à travers le monde.
Tu nous en dirais un peu plus prochainement, Céline.
On garde ça pour la prochaine fois.
Voilà. Merci beaucoup.
Merci. Bonne semaine, Fujian.
Merci à toi aussi. Bye, bye bye. Voilà. Restez à l'écoute. Après la petite pause publicité, je vais recevoir mon invité, Katia McDissy Warren. Voilà, pour nous parler du prix Betty Webster 2022. C'est elle qui a gagné. Voilà, à tout de suite.
Vous écoutez Escale 16-17 avec Fulgence Blas.
nuen utsion utahumeku ihenagahu nit attiku ihenagahu tahkwatem hehe gatok ihenagahu mtush inihwai ihenagahu takop wapte khmok ihnigahu takwanakhku matsu ihnagahu nanakamun deweikan ihnagahu nin inu tahnagahan Ma richesse s'appelle saumon. Ma maison s'appelle caribou. Mon feu s'appelle épinette noire. Mon canot s'appelle bouleau. Ma robe s'appelle Lichen. Ma coiffe s'appelle aigle. Mon chant s'appelle tambour. Moi, je m'appelle humain.
Oh, ça c'est le groupe Octoéco. Marie-Jé s'appelle sous la direction de Katia Magdisi Warren. Bonjour. Bonjour. La récipiendaire du prix Betty Webster.
Bon, M. Blanc, ça va bien.
Mais c'est pourquoi je vous ai invité encore pour lui. Mais il faut que Katia vienne en parler. Comment on se sent d'avoir un prix comme ça, prix Betty Webster 2022. Katia.
Oui. Extraordinaire, hein? C'est vraiment un honneur qu'on me fait, vraiment, vraiment.
Wow, je suis content. Non, moi, je n'ai pas été surpris, en tout cas. Je n'ai pas été surpris quand j'ai reçu le communiqué, j'ai lu ça, j'ai dit, ouais.
Elle le mérite.
Et ce grand travail que vous faites avec tous les membres du groupe.
Merci beaucoup, beaucoup. Mais c'est un prix vraiment pour en fait, c'est un prix qui c'est moi qui l'a eu, mais c'est un prix qui représente en fait le travail de toute l'équipe.
C'est pour l'album Transistor. Ah, ouais. Mais cet album là, il a été fait avec beaucoup de, je sais pas, avec beaucoup de sérénité, à beaucoup de sérieux. Je ne connais pas tous vos albums, mais celui là, ce dernier là qui vient de gagner là. Non, je me dis, non, j'étais pas surpris sincèrement. Bravo à vous et à toute l'équipe.
Merci beaucoup.
Et merci. Comme une compositrice innovatrice qui vous fait remarquer sur la scène nationale et internationale par le style unique où se rencontrent les musiques du Moyen-Orient, de l'Occident et autochtones, c'est ce métissage auquel vous êtes habitué, c'est disons, le métissage pour vous, c'est votre compagnon, si on peut dire.
Oui, absolument, parce que même à la rigueur, la musique pour moi, c'est comme un outil pour la rencontre de l'autre. C'est vraiment ça qui m'anime beaucoup, moi, à travers la musique, à travers tout, en fait, que ce soit la sociologie, que ce soit l'histoire, que ce soit, c'est la rencontre de l'autre. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup, beaucoup. Oui. Et je suis entourée de gens comme ça aussi. Alors, comme ça, on discute, on parle, on voit les similarités, les différences, on rigole, et puis voilà.
Katia, Magdisi Warren, non, c'est pas vrai. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, elle le mérite. Octoéco mérite ça. Ça, c'est pas. Et c'est l'Orchestre Canada. Moi, je connaissais pas cet orchestre, hein. L'Orchestre Canada.
Les Orchestres Canada. C'est une association. En fait, c'est une association de tous les orchestres au Canada.
Oui.
En fait, qui porte le comment on pourrait dire le flambeau de réunir les orchestres et de défendre les droits des orchestres, des musiciens aussi. Ils ont des projets aussi, et c'est eux qui s'occupent du prix Betty Webster, en fait, qui était une
Oui, c'est ça, une femme aussi qui travaillait pour les orchestres, qui aimait justement aussi. Elle aimait, paraîtrait-il, moi je ne l'ai pas connue, mais paraîtrait-il qu'elle aimait beaucoup l'ouverture des orchestres aux autres. Alors donc, cette année, ils ont voulu travailler pour montrer que les orchestres peuvent s'ouvrir, peuvent être pensés différemment, peuvent, tu sais, voir la vision de l'orchestre autrement aujourd'hui.
Oui. C'est un peu ça, oui. Comment est-ce que vous avez réagi quand on vous a annoncé ça?
Ah, mais j'étais tellement surprise.
Vous savez que vous faites un beau travail, quand même. Hein?
Oui, mais bon, je sais pas, il y en a beaucoup qui font vraiment du beau travail aussi, c'est pour ça. Non, mais j'étais très surprise. Mais qu'est-ce que j'ai adoré?
Oui.
C'est que moi, j'aime beaucoup l'orchestre symphonique classique. Là, je trouve que c'est une richesse, bijou, l'orchestre symphonique.
Oui.
Et évidemment, j'aime les musiques du Moyen-Orient, j'aime les musiques autochtones et tout ça. Mais là, le fait qui m'honore, en fait, avec ce prix-là, c'est comme si on dirait que toutes les musiques que j'aime se retrouvaient ensemble.
Oui.
J'ai aimé ça beaucoup.
Non, mais c'est pour moi, quand j'ai reçu le lien de l'album sur votre site, j'ai écouté toutes les pièces, là, je me suis dit, waouh, quel grand et beau travail.
Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Et puis une certaine...
Oui, là, la pièce que vous avez passée, là, que vous venez juste de passer avec Joséphine Bacon, c'est Joséphine et les musiciens qui l'accompagnent, Didem Bachar et David Richman, ils sont incroyables aussi. Là. Ils amènent une profondeur.
Oui, une profondeur. Et chacun de vous, chacun des membres, ou bien tous ceux qui ont joué sur l'album, qui ont participé à l'album, ont mis leur ego quelque part. Et puis, bon, mais cette complicité musicale, cette générosité dont vous avez fait preuve tous dans la production de cet album-là. C'est ça qui fait la grandeur. Oui, c'est ça qui fait la grandeur de l'œuvre. Hein, c'est comme ça que je le perçois.
Ben, c'est exactement ça. C'est pour ça que je dis le prix, ben, je l'ai eu, mais c'est vraiment pour tout le monde. Tout le monde était là avec le cœur ouvert. Hein, le cœur et l'esprit ouverts.
Oui. Après Lina Pénard en 2021, Yannick Nedzetseguer en 2020, Claire Guimont en 2019, Bramwell Tovey en 2018, Artie Broth en 2017, John Gomez 2016, c'est au tour de Katia McDissy Warren, compositrice et directrice artistique d'Auto Echo, de recevoir ce prix. Encore une fois, bravo, bravo. Alors, on va revenir sur l'album, au fait. Cet album-là,
oui.
je ne vous demande pas de faire une transcestrale 2.0, là. Non. Il faut que ce soit quelque chose d'autre. Mais est-ce que, quand vous avez fini le produit, est-ce que vous avez pensé, une fois que vous allez être sélectionné, nominé, ou bien aller décrocher ce prix Betty Webster?
Ben en fait mais qu'est-ce que on était content et celui aussi qui a réalisé c'est le CD avec moi qui s'appelle Jacob là, qui est un très bon technicien de son, puis c'est parce que ça prenait quelqu'un qui avait une bonne oreille comme lui aussi pour pouvoir faire ressortir tous ces instruments différents à travers comme c'était un orchestre comme si on était au centre de tous ces musiciens.
Oui.
Alors il y avait beaucoup de défis par rapport à cet album-là. Et c'est quelque chose c'est un projet qu'on a commencé en 2011.
Mmh.
Alors, c'est sûr que 10 ans plus tard, quand j'y ai sorti, je me disais, bon, mais je suis contente qu'il sorte maintenant, puis qu'on a trouvé une forme, qu'on a trouvé une manière de s'entendre aussi musicalement. Ça a pris du temps, mais on a réussi. Fait que pour moi, c'était genre, ben voilà, on a réussi à faire les ponts. Fait que c'était vraiment, j'étais contente. Et les musiciens, ils m'ont tous dit qu'ils étaient contents on est beaucoup, là. Fait qu'ils m'ont tous dit qu'ils étaient très contents de l'album.
Oui.
Alors, pour moi, c'était déjà recevoir un prix à quelque part que les musiciens disent oui, OK, on est contents. Fait que c'est ça. Vraiment. Voilà.
Et puis, ça s'arrête pas là. Transcestral est aussi, vient tout juste de recevoir une nomination au Gala de la Disque pour album de l'année musique du monde.
Oui, ben c'est ça.
Ça ne s'arrête pas là.
Non, c'est ça.
Allez, je vous écoute, Katia.
Oui, on est vraiment chanceux. En tout cas, déjà d'être nominé, c'est déjà énorme.
C'est déjà énorme, voilà.
Oui, Fait que c'est ça. Fait que là, on est même vraiment toute l'équipe est contente. Puis c'est ça. On va le présenter aussi au théâtre avec la grande. Souvent, on l'a refait depuis le lancement du CD. On a refait souvent le concert, mais avec formation réduite à 15 musiciens.
Oui.
Mais là, on va le présenter avec 24 artistes et danseurs et poésie au Théâtre de la Ville à Longueuil le 9 décembre. Alors ça va être aussi quelque chose d'intéressant parce que c'est comme on est beaucoup, souvent c'est trop pour les diffuseurs de nous recevoir tous ensemble, mais là, on a la possibilité de le faire comme ça va être sur le CD là, avec les cordes, avec tout le monde. Là,
le 9 décembre 2022?
Oui.
OK. C'est où ça? Ça va se passer où?
Au Théâtre de la Ville à Longueuil.
À Longueuil, voilà.
Oui.
J'espère que je vais recevoir le communiqué pour pouvoir en parler ici à Escale 16-17, à l'émission, je vais dire.
Certainement, et vous êtes le bienvenu, évidemment.
Voilà. Même si je n'habite pas à Longueuil. Non, moi, je ne vous ai jamais vu sur scène. Mais quand j'écoute vos pièces musicales avec tous les artistes que vous avez pu réunir dans ce groupe-là. Alors, je sais, donnez-nous le petit secret que vous avez pour approcher les artistes-là pour faire partie de ce grand groupe-là, Octo Echo. Quel est le petit secret que Katia a?
Mais c'est des musiciens avec qui on travaille déjà depuis 2011, depuis 2010 même, c'est certain. Alors, c'est tous des musiciens, c'est ça, que ça fait très longtemps avec qui on a fait des ateliers, avec qui. Puis je pense que le côté de prendre le temps, je sais que c'est un peu long là comme processus, mais de prendre le temps pas juste d'arriver, jouer puis repartir, là, de s'asseoir, même en répétition, de s'asseoir, de discuter, de comprendre des fois des petites subtilités de comment un joue, pourquoi comme ça. Puis tu sais, ça amène que les gens ont confiance aussi, là. Puis mais moi aussi d'ailleurs, on a confiance à savoir qu'est-ce qui se passe exactement.
Oui.
Fait que c'est pour ça. Alors je pense que les musiciens, ils sont contents de prendre le temps, en fait.
Ouais. ouais. Une de vos citations, quand vous avez su ça, quand on vous a annoncé, je suis profondément honoré par ce prix que je dédie à mon entourage, aux merveilleux artistes et équipes administratives avec qui je travaille, ainsi qu'au public à l'écoute. Par la musique, vous me permettez chaque jour de me connecter un peu plus à la grandeur de l'humanité. Grâce à vous, je peux me retrouver au plus profond de ma propre culture et me retrouver ainsi connecté à toutes les cultures. Merci également à toute l'équipe du prix Betty Webster. Katia, c'est vous qui avez dit ça?
Oui, ben oui, c'est comme ça que je me sens avec les gens autour.
De la poésie pure, si je peux me permettre. Oh, ouais. Sincèrement, c'est... Alors, le travail n'est pas fini, ça continue, il y a d'autres projets qui vont s'en venir. Voilà, pourquoi pas?
Ben oui, certainement. On a un projet aussi. On a aussi notre projet Saïmanique, qui veut dire paix en Inuktitut.
Oui.
Qui est autour du champ de gorge. On est 8 musiciens. Puis on présente au théâtre Outremont aussi le 29 octobre. Alors, c'est aussi un projet pour entendre vraiment plus le chant de gorge inuit en particulier.
Oui.
Et en apprendre sur le chant de gorge aussi, parce que les deux chanteuses, Lydia Etok et Nina Segalowitz, mm-hmm. ils expliquent au public à travers le concert qu'est-ce que le chant de gorge. Des fois, ils font de l'animation même avec le public. Alors, c'est un concert, mais aussi avec un côté un peu didactique sur le chant de gorge.
OK, d'accord. Est-ce que cet album se retrouve sur toutes les plateformes numériques?
Oui,
on peut aller acheter, télécharger tout ça, oui.
Oui, oui, absolument, sur toutes les plateformes là.
Numériques. Alors,
oui.
Là sincèrement, je sais pas, mais je dis, moi, je suis pas surpris du prix que vous avez là, parce que là vraiment. Alors, et quel est le prochain spectacle avec tout le groupe? C'est quand? Là, c'est quand? Avec tous les membres, les 30 personnes là qui.
Ah mais non, le plus gros qu'on a là, c'est vraiment le 9 décembre avec les 24 artistes.
OK, 24.
Mais les 30 ensemble, on a fait une fois un spectacle à 30 musiciens, mais ça remonte à quand même assez longtemps.
Oui.
Et puis c'est toujours plus difficile à interpréter après et c'est à faire tourner mais c'est vrai que vous me faites penser que on devrait le ressortir, c'est vraiment autour de la musique des Émirats Arabes Unis. Hein, c'est très, on va chercher des vieilles musiques des Émirats Arabes Unis avec des projections vidéo qui ont été tournées dans les années 50 avec le réalisateur Alain Saint-Hilaire.
Oui.
Puis, c'est des vidéos, c'est des images très très rares parce que lui est allé avant même l'exploitation de l'essence et tout. Là, c'était des petits villages à l'époque. Mais c'est vraiment intéressant parce qu'on voit vraiment la culture émiratie. Puis peut-être que donc on pourrait vous me faites penser qu'on devrait le représenter.
Ouais, ouais. Comment se passe la résidence là-bas à la Maison de la Culture? On sait que là depuis, vous êtes là depuis 2010, hein?
Oui, on est là depuis 2010 et puis l'agente culturelle Liette Gauthier nous soutient vraiment beaucoup. Alors, on a nos bureaux qui sont là, on a la salle de répétition à laquelle on a accès quand on veut. Cela nous aide vraiment justement pour des projets de comme Transcestral.
Oui.
Parce qu'on peut s'installer dans la salle pendant 2 jours, 3 jours et pouvoir discuter et travailler. Et c'est vraiment, ça fait partie de la résidence, la Maison de la Culture. On est vraiment accueillis comme des artistes. Mmh. Alors on a l'espace pour pouvoir faire ça.
Ils vous ont fait comprendre que vous êtes chez vous.
Oui. Puis Liette, depuis on est là depuis 2009, je pense, alors même 2008.
Oui.
Alors, c'est vraiment, la Maison de la Culture antique est une des maisons de la culture qui est spécialisée dans les musiques du monde.
Oui.
Et qui ont été les premiers à mettre la musique du monde de l'avant.
Je lui ai dit bravo et merci.
Oui, vraiment, vraiment. Puis c'est pour ça que là, nous autres, ils nous ont accueillis. Puis là, on est là, puis vraiment, on fait des échanges aussi. Des fois, on travaille aussi à faire de la médiation culturelle aussi avec la Maison de la Culture. Des fois, on présente chez eux aussi. Fait qu'on essaie de faire des projets en commun aussi.
Oui. Bon, avant de vous laisser partir, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur l'histoire Docteur Echo. Mm-hmm. C'est en 2001, là, quelle mouche qui a piqué Katia? Pour dire, je vais monter quelque chose comme ça.
On est au Québec, il y avait beaucoup de mouches.
Ouais. Quelle mouche qui vous a piqué en 2001 et puis dit, non, je vais monter quelque chose comme ça. Avec des gens de partout. Voilà, le grand métissage. Voilà, on y va.
Oui. Ben j'avais étudié, ma mère est libanaise, puis j'avais étudié les musiques arabes et syriaques au Liban.
Oui.
Et puis quand je suis revenue ici, j'ai habité en Europe longtemps, puis quand je suis revenue ici, c'est vraiment ça que je voulais faire, mais à l'époque, il n'y avait pas vraiment d'ensemble qui pouvait réaliser ce ou qui était intéressé à l'époque d'interpréter, parce que c'était comme un peu nouveau.
Oui.
Alors, de là est partie l'idée de créer un groupe pour pouvoir justement faire ces nouvelles expérimentations et nouvelles compositions. Et voilà, c'est aussi simple que ça, là, vraiment. Il n'y avait pas d'ensemble, donc...
Oui. Merci beaucoup, Katia Makdisi. Warren, merci beaucoup. Lauréate du prix Betty Webster 2022. Et puis, en nomination avec cet album Transcestral, 11 pièces, si je ne me trompe pas. C'est bien ça, non?
Oui, bah ouais, vous connaissez bien l'album.
Voilà. J'ai tout écouté, Katia.
Oui.
J'ai tout écouté. Alors, peut-être qu'on se verra le 9 décembre à Longueuil. J'aimerais bien vous voir sur scène. Je vous ai jamais vu sur scène. J'ai vu des vidéos, tout ça. Mais ça peut pas remplacer la scène. C'est pas possible.
Ah, ben, ça fera plaisir de vous rencontrer en personne.
Merci à vous. Encore une fois, bravo. Félicitations pour ce prix. Et puis, à bientôt.
Puis merci, Jean, pour l'invitation. Puis, au plaisir. Hein?
Au plaisir. Au revoir.
OK. Au revoir.
Ouais. Et alors ça c'est Octo Echo qui passe en fond sonore là, vous venez d'écouter, c'est le titre de la pièce, c'est International, ça devient international, vous avez écouté la musique du monde entier dans cette pièce là, effectivement, sous la direction de Katia McDissie Warren, récipiendaire du prix Betty Webster 2022, voilà, vous ne travaillez pas bien sûr, Orchestre Canada, OC, c'est comme ça. Qui existe depuis, ce prix existe depuis 2002, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est comme ça. Mmh. Et alors, ça a été établi là, suite à Betty Webster, qui était très engagée pour les orchestres du pays. Merci à toi, Mathieu. On se retrouve demain. Et puis, merci à Myriam Larache, à Céline Laberge, à Katia McDissie Warren. Et je dis merci à tous nos auditeurs auditrices, fidèles auditeurs auditrices. Et sur ce, prenez soin de vos minutes. Oui, je vous tendez la main à ceux qui en ont besoin. Et sur ce, je vous dis ciao.